Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Les souterrains de l'âge du fer, voilà qui sonne mystérieux, venu du fond des âges et du fond de la terre. Mais si je vous dis qu'on en connaît plus de 460 en Bretagne et en Normandie, qu'on les connaît depuis le 19e siècle et que les archéologues les fouillent régulièrement, vous vous rendez compte alors que c'est tout de même moins insolite. Noribine nous emmène en pays bigoudin, à Plovan, pas loin de la mer. On la voit depuis le chantier de fouilles qui a carrément coupé une petite route près d'une maison. Muriel Filier et son équipe sont à l'œuvre, même en cette journée fraîche et venteuse de la fin mars. Muriel dépend du Centre départemental d'archéologie du Finistère et son domaine, c'est la protohistoire, les souterrains armoricains de l'âge du fer, elle en a déjà croisé.
Alors il y a eu beaucoup de découvertes anciennes, ils ont été fouillés de manière plus ou moins complète on va dire, et il y a eu des travaux plus récents quand même, il y a eu la thèse de Stanislas Bossard, c'était son mémoire universitaire où il a recueilli toutes les informations qui étaient connues pour faire une synthèse. Donc c'est vrai qu'il y a cet ouvrage qui permettent de voir. Il y a énormément de différences dans le traitement des données. Donc on voit juste, c'est qu'ils se sont servis de la géologie du coin, il y a un puits d'accès qui permet de descendre dans une structure avec plusieurs salles et des chatières, donc qui permettait des espaces un petit peu resserrés, qui permettaient de passer de salle en salle. Et donc, il faut imaginer du coup que c'est très sombre, mais qu'il y a des conditions d'hygrométrie, tout ce qui est humidité, pas de lumière, température constante. Donc ça peut être intéressant éventuellement pour du stockage, quoi.
Oui, voilà. Alors, ce qu'on en a repéré, on dit souterrain armoricain, c'est un peu une spécificité Grand Ouest, non, c'est ça?
Oui, c'est une spécificité Grand Ouest. Alors, il y en a plus de 400 qui sont répertoriés en Bretagne, mais il y en a aussi quelques-uns en Normandie. Il me semble qu'il y en a une cinquantaine qui sont vus depuis qu'il y a de l'archéologie préventive en Normandie.
Est-ce qu'il y a des types différents?
Oui, il y a plein de types. Bah, ça va être fait aussi d'après la géologie, en fait, de comment ils ont creusé. Il y en a qui devaient être à ciel ouvert, où c'était des structures en bois. En fait, ça devait être... Donc, ils creusaient. C'était des structures semi-excavées avec du bois. Et moi, celle que j'ai plus vue, c'était où c'était vraiment creusé dans le substrat, en fait. Voilà, où ils partaient en sape, où ils creusaient dans le sol.
Généralement, c'est une salle ou est-ce qu'il y a plusieurs pièces comme ici?
Non, souvent, il y en a plusieurs. L'année dernière, on en a fouillé un à Combrite où il y avait deux salles, par exemple, mais il peut y en avoir vraiment beaucoup plus, quoi.
Alors, il y a eu plusieurs hypothèses, je crois, au départ, d'ailleurs, quand on a commencé à découvrir ces souterrains gaulois sur leur fonction.
Alors, il y a toujours débat pour certains, je pense, parce que l'hypothèse la plus privilégiée aujourd'hui, c'est que ce serait des espaces de stockage pour des denrées, mais on ne sait pas vraiment lesquelles, parce qu'on trouve rarement du mobilier à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a eu peu de prélèvements, peut-être maintenant, avec les moyens qu'on a actuellement, il faut faire plus de prélèvements. Il y a des collègues, Anne-Françoise Cherel, par exemple, qui travaille sur la céramique, elle a sorti un article où ils ont fait des études géochimiques sur quelques céramiques qui avaient été trouvées dans des souterrains, et elle avait pu mettre en évidence qu'il y avait eu des produits laitiers et sans doute quelque chose comme du vinaigre, donc elle cherchait à dire est-ce que ça aurait pu être, tu vois, du fromage ou des laitages, enfin quelque chose qui aurait pu être stocké, mais il y a encore assez peu de données pour permettre d'aller plus loin, mais c'est l'hypothèse privilégiée de stockage de denrées.
Parce que quand on a réussi à faire des fouilles un peu plus vastes, ce qui ne sera pas le cas ici malheureusement, mais en général on a trouvé des habitats, c'est pour ça aussi, non?
Alors quand c'est fouillé autour, souvent on voit qu'il y a des enclos, donc souvent que c'était dans des zones enclos, il peut y avoir des trous de poteaux, donc ça veut dire qu'il y avait des bâtiments aussi. Mais là voilà, là ici on est en secteur réduit avec les réseaux d'eau, d'électricité, donc on n'aura pas cette vision élargie pour le moment.
Alors il y a eu d'autres hypothèses, comme quoi c'était des sortes de panic rooms, enfin des refuges ou même des lieux de cérémonie, mais bon, ça finalement c'est des hypothèses qui commencent à s'éloigner un peu.
Alors c'est des hypothèses qui commencent à s'éloigner parce que c'est difficile pour ça de mettre en valeur. Après, est-ce que ponctuellement ça aurait pu servir pour autre chose? Bah ça c'est pas impossible non plus.
Alors voilà, sur quelques mètres carrés à la place de la route, il y a un trou rectangulaire et dedans c'est pelleté, seaux de terre et brouettes.
Alors ici, on a une salle qu'on a appelée la salle 1, qu'on pensait être le puits d'accès, mais au final, qui est là, sans doute une salle dont la voûte s'est effondrée et qui a été comblée. Donc tout ce qu'il y a là, ce sont les niveaux de comblement dans lesquels on a trouvé de la céramique du Moyen-Âge.
Ça n'a pas l'air énorme. Hein.
Bah, on n'est pas au fond là.
Ah oui.
D'accord. On n'est pas au fond. Voilà, pour des raisons de sécurité, on s'est arrêté à ce niveau-là parce qu'après, ça devient trop étroit et c'est complexe au niveau des déblais.
Et quelle surface elle fait à peu près ?
Eh ben, pour l'instant, je ne sais pas encore. Au final, ça fait peut-être de 1m50 sur 1m50. Après, ici, il y a une petite chatière qui permet de passer dans la salle qu'on a appelée numéro 2.
Le couloir.
Voilà.
Vous ne pouvez pas vraiment être debout alors dans le couloir.
Ah non, dans les petites chatières, les petites portes, non.
C'était à quatre
plutôt,
pattes.
Ouais, plutôt à quatre pattes ou ramper même pour certaines. Et là, c'est la salle où ma collègue Manon est en train de fouiller.
Pas énorme non plus la salle. Hein.
Non, pas énorme non plus. C'est ouais. Des petites salles. Et si on continue derrière, ici on voit là, c'est creusé dans la roche, donc il faut imaginer qu'il y avait une chatière. Donc là, le haut a été enlevé et du coup, il y a la troisième salle qui se trouve ici.
Qui est peut-être plus grande.
Pareil, on doit être sur 1m50 sur 1m50, pas aussi. C'est pas des grandes salles.
Et donc, ça n'est pas en enfilade.
Ils ont dû suivre, ouais, là on voit qu'ils arrivaient sur la roche dure et du coup ils se sont vraiment adaptés sans doute à l'environnement.
Mais on est sûr qu'il n'y a pas de quatrième salle derrière, enfin...
Alors au bout de la 3 on est sûr parce qu'on voit bien qu'il y a la roche tous les côtés. Là celle que ma collègue est en train de fouiller à voir, hein, ce ne serait pas impossible qu'il y ait une chatière qui part sur les côtés. Donc ça on saura quand ils auront descendu un peu plus. La salle qui est là-bas, le fond est à 3 mètres d'après le sol actuel. Là, on doit être aussi. Là, on est dans les 2m50 peut-être.
Théo, je vais te laisser la place pour que tu t'amuses un peu quand même aussi.
Alors, ici, il y a une découverte archéologique qui est arrivée. Il y a un trou qui s'est formé subitement dans la route. Et les équipes intercommunales qui ont fait la découverte, donc il y a eu tout un circuit en fait, où les archéologues ont été prévenus de cette découverte. Et avec la DRAC, les services intercommunaux, la mairie et le département, le service archéologique du département, il a été décidé de faire un petit sondage d'urgence pour pouvoir faire tous les enregistrements archéologiques, voir ce que c'était avant le rebouchage de la zone, avant que le site soit détruit en fait. Nous, c'est en octobre qu'on a été informés de la découverte. Après, voilà, y a un petit peu de temps pour organiser le chantier, que tout le monde se mette d'accord. La commune, l'intercommunalité a souhaité aussi qu'il y ait un géoradar pour essayer de voir l'étendue, en fait. Ils souhaitaient voir à peu près l'étendue pour savoir où est-ce qu'on allait derrière. Et du coup, nous, on avait d'autres chantiers après qui se sont mis en place, donc on intervient maintenant. Après, c'était un petit bout de route où ça ne gênait pas que ce petit bout de route-là soit fermé puisqu'il y avait d'autres accès. Et donc, avec une pelle mécanique, on a ouvert en fait un peu plus largement et on a découvert un souterrain qu'on suppose d'époque gauloise.
Alors, quand on dit souterrain gaulois, c'est quelle époque en fait, en termes d'années ?
Alors, souvent, c'est donc plutôt au second âge du fer, entre le 5e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ.
Donc on a tout de suite identifié ce que c'était en fait.
Il y a Pierre Goulet-Kerr, qui est un archéologue assez connu, qui habite en fait dans le village. Donc les équipes intercommunales l'ont appelé et lui il l'a identifié parce qu'il en a fouillé aussi plus tard. Et c'est vrai que nous voilà, on a l'habitude d'en voir aussi des trous comme ça. Et donc 99% des cas, ce sont des souterrains d'époque gauloise.
De temps en temps, une giboulée de Mars. On fait une pause dans la voiture.
Alors, je m'appelle Théo Gans. Je suis en Master 2 ingénierie de l'archéologie préventive à Bordeaux. Je vous apprends les bases du dessin, du dessin assisté par ordinateur. C'est-à-dire qu'on va reprendre, nous, tous les relevés qu'on va faire sur le terrain et on va apprendre à les numériser. On va apprendre aussi un peu de législation, mais vraiment les bases pour pouvoir ouvrir correctement les sites, les sondages. Oui, un peu de carto aussi. Et je suis étudiant pour le département service archéologique. Je fouille, je fais les sauts, l'appel, la main d'œuvre non qualifiée. C'est très chouette, hein. C'est toujours chouette d'être sur le terrain, l'équipe est chouette.
Le fait que ça soit un souterrain gaulois, ça vous parle particulièrement ?
C'est quelque chose que j'ai jamais fouillé, et fouiller sous terre c'est vraiment assez spécial. C'est pas vraiment sous terre mais c'est étrange, ça change.
Pourquoi ?
C'est jamais aussi haut d'habitude les parois, d'habitude on voit toujours un peu... ce qui se passe autour, là on est vraiment enfermé, confiné dans nos couloirs.
Ce chantier qui barre la petite route de Plauvent est une fouille très rapide au fond.
Alors c'est pas une fouille préventive, parce qu'une fouille préventive ça arrive autrement dans le processus quand on sait qu'il va y avoir des travaux. Là du coup on a monté un sondage d'urgence avec la DRAC et le département. C'est passé en sondage, ça s'appelle un sondage d'urgence du coup.
Et alors comment on procède ? C'est quoi les étapes ?
Là, on a été prévenus. Donc, nous, dès qu'on sait, on prévient la DRAC, le service régional d'archéologie, qui a une découverte. Après, là, comme c'est sur une route, donc il a fallu qu'il y ait, y avait beaucoup de gens concernés, que ce soit la mairie, l'intercommunalité, donc le département avec ses archéologues, la DRAC. Donc, il a fallu mettre tout le monde d'accord sur comment on allait gérer à quelle étape, qui faisait quoi. Donc, ça a pris un peu de temps.
Et combien de temps? C'est-à-dire quelques jours, en fait?
Là, on est parti en se disant qu'en 15 jours, ça devrait être OK pour qu'on ait suffisamment d'informations, sachant que si on a besoin de quelques jours en plus, c'est OK avec la communauté de communes pour nous accorder ce temps.
Et vous êtes combien sur le chantier?
On est 5. Donc, moi, je suis la responsable du chantier. Il y a Manon, ma collègue topographe, archéologue. On a 2 étudiants en master, en stage, Théo et Gwenolé, qui viennent nous aider. Gwenolé vient souvent sur nos chantiers nous aider. Et on a Véronique, qui est une bénévole du CFRA. C'est une association de bénévoles en Bretagne, essentiellement. Et elle vient souvent nous aider aussi pour des chantiers quand on a besoin de mains expertes.
Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de manutention. Il faut être un peu costaud.
Il faut être un peu costaud, ouais. On avait une pelle mécanique au début du chantier, là on l'a plus, puis après il y a des espaces, faut faire des choix, parce que comme on veut garder un peu les voûtes, on essaye de garder des espaces, donc c'est plus compliqué d'aller enlever les déblais, il faut quand même que ce soit en sécurité, donc il y a des endroits où on a cassé la voûte en fait, après enregistrement.
Parce que sinon ça se serait effondré?
Il y avait trop de risques en fait. Aujourd'hui, alors peut-être qu'autrefois, les archéologues d'autrefois prenaient ce risque-là d'aller fouiller pour garder tous les espaces, aujourd'hui on ne fait plus ça, et on enlève le haut de la voûte pour que les équipes puissent fouiller en sécurité, qu'il n'y ait pas de risque d'effondrement.
Et sinon, alors, il faut quoi? Il faut enlever de la terre, il faut regarder ce qu'il y a dedans, s'il y a justement du mobilier, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ouais, donc on va faire des paliers de sécurité déjà pour pas que tout s'effondre. Donc on va ouvrir dans des espaces pour que ce soit sécurisé. Et puis ensuite, on va aller fouiller les salles. Donc le but, c'est d'avoir un plan déjà, quelle est la forme de la voûte, comment ils ont creusé sur les côtés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur une des salles, on a les traces d'outils. Des gens qui l'ont creusé. Donc on voit bien en fait des traces de pics, en fait des traces de manière verticale. Donc ça, on a pris pas mal de photos. Et on espérait, pour pouvoir dater, trouver par exemple de la poterie ou des choses sur le fond de la salle. Par exemple, une poterie qui aurait été posée, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Et puis ça permettrait de confirmer la fonction de cave, entre guillemets. Et là, il y a 3 salles présumées, mais il pourrait y en avoir d'autres. Enfin, elles sont reliées, comment ça se passe?
Oui, souvent elles sont reliées par une chatière. Mais là, la dernière salle, puisqu'il y a une partie qui se trouve sous le réseau d'eau, donc on va pas aller nous fouiller cet espace-là, qui n'est plus sur la route. Donc du coup, qui ne va pas être détruit, donc celui on laisse comme ça en fait.
Relié par une chatière, ça veut dire qu'on peut quand même y accéder en rampant? Enfin, les Gaulois, je veux dire, les gens de l'époque, comment ils faisaient?
Eh ben oui, les accès devaient être pas très faciles. Ça devait pas être rien de descendre sans électricité, donc faut imaginer descendre dans le noir. Déjà creuser même ça en fait, avec évacuer tout le système pour évacuer les déblais, c'est quand même une sacrée organisation à creuser et après à utiliser. Ça devait être particulier de descendre dedans s'ils allaient chercher des sacs de denrées, les remonter. Je pense qu'il y avait plusieurs personnes, ils se passaient les sacs peut-être de chatière, d'espace en espace, et un qui... Et donc il y avait un puits d'accès, quoi. Il y avait,
avec une échelle, sans doute.
Il y avait sans doute des échelles en bois, ouais.
Évidemment, on ne retrouvera pas... Enfin, est-ce qu'on a retrouvé des fragments de bois dans certaines caves?
Alors souvent, ça va être les traces. Par exemple, s'ils ont doublé avec des poteaux, donc il y a les fondations, en fait, ou alors il peut y avoir des petits espaces sur les côtés, peut-être pour caler. C'est plutôt ça qu'on va trouver, les traces indirectes.
En termes de conservation, comme c'est sous terre, c'est bien conservé. C'est pas, ça n'a pas été comblé quand ça ne s'est pas effondré.
Alors souvent, quand les structures sont abandonnées, parfois c'est parce qu'il y a une salle qui s'est effondrée. Donc souvent, c'est là où ils vont se dire, c'est trop dangereux, on va en recreuser un autre un petit peu plus loin, et c'est abandonné. Et sinon, quand pour une raison qu'on ne connaît pas, ils ont abandonné cette structure sans qu'elle se soit effondrée, c'est le puits d'accès en fait qu'ils vont combler de façon à ce que personne ne descende plus à l'intérieur. Et du coup, c'est ces puits d'accès qui sont intéressants à fouiller, parce qu'on peut retrouver, du coup, s'ils ont gratté la terre à côté de l'habitat, les poubelles, ils vont tout mettre dedans pour combler. Et c'est ça qui nous intéresse aussi.
Ah oui, il y a des souterrains qui ont pu servir de fosse de poubelles, enfin de déchets.
Quand ils ont abandonné, le trou en fait qui devait être encore visible, on va dire, dans l'espace qui était occupé, ils ont comblé pour que ce soit pas dangereux, et peut-être que quelqu'un tombe pas dans le trou. Ils condamnaient la structure en fait après.
Et on n'a pas, sur d'autres souterrains, trouvé des structures extérieures?
Quand ils faisaient du préventif, quand on a travaillé à Combrite, par exemple, on a vu qu'il y avait des enclos à côté. On avait des fossés, tout un système de fossés autour.
Mais par-dessus le trou, pas vraiment, quoi.
Alors il y a des exemples où ils ont trouvé des trous de poteaux juste au-dessus, donc ils disaient que peut-être dans l'entrée il y avait une petite structure en bois qui protégeait et peut-être qui était fermée hein, d'ailleurs pour pas que les enfants tombent dans le trou. Voilà. Donc potentiellement il y avait une petite, un petit espace en bois qui protégeait l'entrée du souterrain.
Puisque le temps est compté, il est bon de profiter d'une main-d'œuvre supplémentaire, en plus des étudiants, les bénévoles comme Véronique.
Alors je suis fait partie d'une association qui existe depuis les années en gros 1960. Donc une très ancienne association qui s'appelle le CFRA, Centre de Formation de Recherche Archéologique. On est basé à Fouesnant. Maintenant, on est basé à Fouesnant, mais avant, l'association était basée dans le Gard, dans le sud de la France. Il y a beaucoup de personnes, on est environ une quarantaine, dispatchées un petit peu partout en France. Voilà. Et on se retrouve un petit peu sur certains chantiers, sur certains travaux de prospection que l'on fait. Et on travaille avec les archéologues.
Donc vous, vous n'êtes pas archéologue professionnel, mais enfin, j'imagine que vous avez une compétence, hein, vous fouillez depuis combien de temps ?
Alors moi, je n'ai commencé à fouiller qu'en 2018, mais je ne suis que bénévole, je ne suis pas professionnelle du tout. J'apprends, par contre, les archéologues nous apprennent, oui, effectivement, mais je ne me considère pas comme archéologue. J'avoue que je n'y ai jamais pensé étant petite, hein, parce que beaucoup de gens me disent « j'ai toujours rêvé de faire archéologue », moi pas du tout, c'était plutôt l'histoire. Mais ça, c'est travailler avec des gens, en fait, ce que je n'avais jamais pensé faire, quoi, en fait. On gratte, on descend avec truelle, pas pinceau, parce que là, pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Et ben, tout le travail de manœuvre, en fait, quoi. Ouais. Dessiner aussi. C'est un chantier comme un autre, on apprend. C'est juste un site différent, parce que là, effectivement, d'habitude, on est en plein air, on va dire, en surface. Là, on descend un tout petit peu, mais c'est pas... Non, ça ne fait pas plus, ni moins, ni plus. On apprend toujours, en fait.
Là, j'imagine que l'intérêt aussi pour le Centre départemental de l'archéologie, c'est que justement, vous avez déjà fait des chantiers.
Oui, tout à fait. Il y a une petite expérience qui vient au fur et à mesure. De toute façon, depuis 2018, il y a un peu. Oui. Donc ça leur apporte de l'aide quand ils ont besoin de monde, effectivement. Donc, c'est un plus.
La fouille en elle-même aura duré environ 2 semaines, mais le gros du travail, c'est après pour Muriel Philly.
Alors là, on va nettoyer le mobilier. Donc là, pour l'instant, on n'a que du mobilier du Moyen-Âge. Donc voilà, c'est quelqu'un, c'est un médiéviste, hein, c'est un homologue médiéviste qui étudiera le mobilier. On va tamiser aussi, on a fait des prélèvements dans le fond des salles. Donc on va tamiser pour essayer de voir si on trouve des graines, par exemple, ce genre de choses. Ma collègue Manon, la topographe, va avoir beaucoup de travail pour faire les plans. Du coup, donc on va mettre les dessins qui ont été faits, tous les plans au net.
Manon Kilivi, qui aime pelleter, mais qui là prend sa pause dans la voiture.
Je suis archéologue, topographe, géomaticienne et pilote de drone donc, au Centre départemental d'archéologie du Finistère. Donc, je suis l'adjointe de Muriel, puisqu'on est deux professionnels du coup, dans cette équipe. Et je suis aussi donc, la topographe du chantier. Donc, je m'occupe de tout ce qui est enregistrement dans l'espace des données.
Comment vous procédez concrètement pour nous donner une idée de la méthode ? Vous avez un mètre ruban ou c'est plus compliqué ?
Oui, ça peut être un mètre ruban, mais là, très précisément, j'utilise cet appareil-là qui est donc un GPS RTK. Donc ça veut dire que je me connecte en fait en temps réel au satellite et puis à une base en fait qui est pas loin. Je vous passe les détails parce que c'est un petit peu technique, mais en gros ça me permet d'avoir une position centimétrique dans l'espace. Donc j'ai une précision centimétrique, ce qui est suffisant pour enregistrer des vestiges de ce type.
Et alors après, une fois que vous aurez toutes vos données numériques, qu'est-ce que vous ferez ?
Et je vais les traiter dans un logiciel qui s'appelle un système d'information géographique. On dit, dans le jargon, on dit un SIG. Donc ça va me permettre de produire des plans, en fait, tout simplement, et des coupes, en fait, du terrain. Je fais aussi, avec l'appareil photo, une couverture photo qui me permet, en traitant les photos par photogrammétrie, de faire une restitution 3D aussi du souterrain. Et ça me permet, effectivement, d'en retirer des orthomosaïques, en fait, des images très précises du souterrain et surtout à des endroits qui sont peut-être un peu inaccessibles, comme par exemple le fond, les dernières salles, en fait.
Suffisant si on, par exemple, si on voulait faire une reconstitution, enfin, je dis n'importe quoi, comme un Lascaux 4 ou 5, souterrain 2, est-ce qu'on pourrait faire ça avec vos données ?
Oui, on pourrait. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt sur ce type de souterrain, mais c'est possible, c'est suffisamment précis pour le faire, ouais. Ouais.
Et tout est informatisé maintenant ou est-ce que vous éprouvez encore le besoin de dessiner à la main
Alors on double toujours par des relevés à la main parce qu'en fait c'est très important pour nous de faire des observations sur le terrain en direct. Quand c'est vraiment pas possible au niveau timing, que le planning ne nous permet pas de faire des relevés à la main, ça nous arrive de passer cette étape-là. Mais en général, on aime bien quand même faire nos observations directement sur le terrain, faire un relevé sur papier, parce qu'il n'y a rien de mieux et rien de plus fiable que les archives papier. Dans tous les cas, nos appareils électroniques peuvent tomber en panne et on peut perdre de la donnée. Donc on essaye toujours d'avoir au moins deux types d'enregistrements pour être sûr d'avoir quelque chose sur quoi retomber, quoi.
Mais vous n'allez pas dessiner le souterrain en version dessin, quoi.
Si, on a commencé à dessiner. Enfin, ce qu'on appelle les dessins, c'est des relevés techniques. Donc, mais c'est quand même des plans et des coupes du souterrain.
Il y aura combien de plans générés ?
Il n'y en aura qu'un, puisqu'il n'y a qu'un souterrain. Ça sera un plan. Après, il pourra être représenté de différentes manières, en fait, ce plan. Dans le rapport que Muriel va rédiger, c'est Muriel, en fait, au moment où elle va rédiger son rapport, qui va avoir des besoins particuliers pour illustrer son propos et qui va me demander des images particulières, en fait, suivant ce qu'elle aura envie de dire. Donc il y aura probablement un plan du souterrain en entier et peut-être des zooms sur des salles en particulier. Si on a envie d'avoir un plus gros degré de détail, on pourrait avoir besoin par exemple de zoomer sur la pièce du fond, de tout au fond, sur laquelle on voit très bien les traces d'outils qui ont été utilisées. Et ça, si on veut bien le représenter sur un A4, un papier A4, on est obligé de zoomer. Donc là, on est obligé de produire un nouveau plan, par exemple.
Vous, en tant que topographe, est-ce que vous avez aussi, comment dire, une dimension de géologue ?
C'est pas du tout ma spécialité. Ça, c'est la spécialité de ce qu'on appelle les géomorphologues en archéologie, et effectivement les géologues. Et moi, j'ai pas du tout cette compétence-là. Je ne connais pas grand-chose en géologie.
Donc, topographie, c'est le relief essentiellement.
Ouais, c'est vraiment la spécialité qui s'attache à enregistrer les données spatiales, à s'assurer de notre bonne position dans l'espace. Et à enregistrer effectivement toutes les données et à produire les cartes, en fait, tout ce qui va être cartes, 3D, etc.
Comme c'est un petit chantier, vous avez beau être topographe, vous faites aussi transporter les seaux.
Ah bah moi, de toute manière, j'adore fouiller et c'est vraiment ce qui me motive en général. Donc je suis technicienne de fouille et effectivement, j'aime aussi fouiller dans tous les cas. Et c'est important pour moi, ouais, de fouiller ce que je relève. Rien que pour le comprendre, c'est vraiment important.
Et ce chantier-là, qu'est-ce qu'il vous apporte à vous ?
C'est un nouveau, parce que j'ai déjà fouillé des souterrains, mais du coup c'est un nouveau souterrain, donc c'est toujours un plaisir en fait de découvrir des nouvelles structures et de voir des voûtes aussi bien conservées. Je pense que c'est la première fois que je vois des voûtes et des parois aussi bien conservées, avec des, comme le rocher, il est très sain. Moi, les souterrains que j'avais déjà fouillés, c'était dans la roche qui était beaucoup plus détritique, donc beaucoup plus abîmée, donc on n'avait pas ces traces d'outils. Donc c'est la première fois que je vois des traces d'outils aussi nettes sur une paroi d'un souterrain.
Théo, je vais te laisser la place pour que tu t'amuses un peu quand même aussi.
Une fois qu'on aura toutes nos données, qu'on aura décrit, je vais passer du temps à décrire tout ce qu'on a trouvé. Et puis après, ça va être de la comparaison, quoi. On va aller voir avec les autres souterrains connus, qu'est-ce qui est connu dans le coin. Et on met tout ça dans un rapport de fouille qui est accessible, en fait, où c'est enregistré, en fait, la mémoire du site est enregistrée pendant qu'on fouille, quoi.
Ça sera pour quand la publication ? Dans un an, en plus ?
Oui, je pense que ce sera dans un an, parce qu'en fait, on a plein de petites interventions d'urgence qu'on met à la suite, et à un moment, voilà, ça se cumule, donc on étudie. Là, on n'a pas trop de mobilier, mais sur celle qu'on avait fait à Combrite, par exemple, on avait trouvé un peu plus de poterie, donc ça veut dire que ma collègue céramologue, elle a du travail, voilà, pas mal de travail pour étudier les poteries cassées, les remonter, pour essayer de voir quelle forme ça a, pour pouvoir mieux dater le site.
Et quand le chantier, celui-là, sera terminé, donc c'est quoi ? C'est un comblage ? Comment ça se passe ?
Alors après, c'est pas nous qui gérons le rebouchage, c'est la communauté de communes, donc eux, ils ont l'habitude de gérer, c'est eux qui gèrent ce type de voirie, donc après, ils feront ça avec leurs normes techniques de voirie, quoi.
Mais il n'y aura pas de souci de préservation du site souterrain ?
Ben, ça va être comblé, en fait. Nous, les espaces qu'on a fouillés, du coup, vont être comblés pour la construction de la route. On part du principe qu'on aura fait le maximum d'enregistrement de ce qui pouvait être fait de cette partie-là qui va être recomblée, quoi.
Oui. Donc ça ne va pas préserver vraiment le site, quoi. Enfin, tous les espaces vides seront bouchés, en fait.
En fait, on préserve la mémoire du site, mais pas le site en lui-même, non. Parce que sinon, il y a de l'archéologie partout, donc sinon, on ne ferait plus d'aménagement aujourd'hui. Mais par contre, la mémoire du site, comme nous, on a fouillé vraiment en enregistrant, la mémoire du site est préservée.
Qu'est-ce que ça te fait à toi de fouiller ça ?
Ah ben c'est si c'est émouvant. Ce qui a été le plus émouvant, c'est pour moi là, c'était de voir les traces d'outils en fait. J'avoue que les traces d'outils, parce qu'on voit vraiment le geste de la personne, donc on se sent au plus proche de la personne. Et on a été très bien accueillis par les voisins, qui étaient vraiment tout le monde autour, qui était très content de cette fouille, donc ils passent régulièrement tous. Donc c'était en expérience humaine aussi, c'est intéressant, voilà.
T'avais jamais fouillé de souterrain comme ça ?
Bah si, l'année dernière à Combrite, du coup, on avait fouillé un souterrain. Et sinon, j'en avais visité beaucoup avec des collègues, mais où ils n'étaient pas forcément fouillés. S'il n'y avait pas de risque de destruction dans le champ, il y avait peut-être juste un peu de terre qui allait servir pour combler, en fait. Mais la structure était enregistrée et pas fouillée, quoi. Ça peut arriver aussi.
Merci au Centre départemental d'archéologie du Finistère que vous retrouvez régulièrement sur nos ondes et sur le site internet de la radio, de la protohistoire au Moyen-Âge.